La suite des événements. L'histoire vraie nous apprend, et d'une façon éloquente, le devenir des civilisations décadentes. Elle nous permet de dresser le tableau des anciens pays évangélisés, aujourd'hui entièrement rayés de la carte de la chrétienté. Un généalogiste pourrait montrer comment se sont interrompues tant de vieilles lignées de baptisés incorporées maintenant à l'islam. La juste prévision du père de Foucault concernant la fin de la présence chrétienne de la France en Afrique du Nord peut aujourd'hui être étendue jusque pour l'Hexagone. Eh bien, chers frères, il est cependant possible d'émettre de sérieuses objections et sur notre déplacement ici et sur le choix de ces deux noms ou de leur accolement. On peut par exemple remarquer que le maréchal n'a pas été un catholique modèle et que le régime de Vichy ne restituait pas tous ses droits à l'Église catholique. Que la fraternité Saint-Bilis, parce qu'elle est d'Église, devrait demeurer dans la réserve sur le plan politique. Enfin, même si l'on admire le maréchal, qu'il est justement imprudent d'en donner un tel signe extérieur. Que si le rôle de l'archevêque est majeur dans l'histoire de l'Église et qu'on ne peut le contourner, celui du maréchal dans l'histoire de notre pays ne revêt pas la même importance. Quoi qu'il en soit, que la fraternité Saint-Bidis n'a pas pour vocation d'épouser la cause de tous les proscrits de la terre. Je dois reconnaître que je n'aurais jamais osé prendre l'initiative de cet hommage si je n'avais été précédé en cette démarche il y a 20 ans par Mgr Lefebvre. Et pour ce qui touche à notre pays particulièrement, je me fais un devoir particulier de ne rien omettre dans la transmission des signes et des paroles qu'il nous a laissés. Je suis très sensible à l'idée de ne rien perdre de sa fière liberté de parole qui nous a sauvés, de ne pas renoncer au moindre iota de son discours. Il appartient au premier chef, à notre supérieur général, comme il s'y emploie avec tant de conviction et d'affection filiale, de redire sa parole essentielle qui concerne l'Église. Mais de ceux qui se suivent les uns après les autres à la tête du district de France, ne doit-on pas attendre qu'ils scrutent aussi, avec une attention particulière, les pensées de Mgr Lefebvre au sujet de ce pays qui est le sien et le leur? Ne plus redire ce qu'il a dit m'apparaîtrait comme inquiétant, comme un terrain que l'on abandonne lorsqu'il n'en reste déjà plus rien. Mais, me fait-on remarquer, c'est la prudence qui devrait inspirer de ne pas s'attacher à ce détail, risquant de compromettre les intérêts sacrés que défend la fraternité. Cependant, Mgr Lefebvre s'y est risqué. 20 ans d'oppression nous auraient donc affaiblis à ce point de ne plus pouvoir simplement renouveler son geste? Comment oserais-je alors parler de la promesse qu'il prononça sur la tombe de l'île-Dieu de tout faire pour que justice soit rendue aux grands prisonniers? Il me semble que l'on doit, et qu'il est urgent, de travailler à repousser le bâillon, car il est vain de demander à celui qui se trouve déjà tout au fond de l'impasse de reculer encore pour échapper au danger immédiat. Il est déjà allé jusqu'au bout du recul, et puisqu'il est donc acculé, il doit se résoudre enfin, ne pouvant plus se dérober, à affronter. Telle est la situation devant laquelle se sont retrouvés le maréchal pour la France et l'archevêque pour l'Église, telle est également la nôtre. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes se constituer en champions du dernier espoir. Leur carrière et leur prestige de prince de l'Église et de la France s'imposaient tellement qu'ils conduisirent des populations désespérées à les reconnaître et à les appeler comme les hommes du miracle. Le maréchal a rappelé, devant la haute cour de justice qui le condamna à mort, Je ne demandais ni ne désirais rien. On m'a supplié de venir. Je suis venu. Je devenais ainsi l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur. Les vrais responsables s'abritaient derrière moi pour écarter la colère du peuple. Et comme un écho, l'archevêque a raconté. Ils m'ont pris littéralement au collet et ils m'ont dit « Il faut faire quelque chose pour ces séminaristes ». J'ai eu beau invoquer que j'avais 65 ans, l'âge de la retraite, qu'il était hasardeux de commencer quelque chose que je ne pourrais poursuivre si je venais à disparaître d'ici quelques années, rien n'y fit. Même s'il ne touche pas à la crise de l'Église, le voyage de Mgr Lefebvre sur cette île et le discours qu'il a prononcé devant cette tombe constituent des indices trop profonds de ses convictions catholiques et françaises pour ne pas y prêter attention. La tyrannie de la pensée unique était déjà suffisamment oppressante en 1987 pour que Mgr Lefebvre n'ait pas pensé à mesurer l'utilisation que l'on pourrait faire contre lui et contre son œuvre de ce qu'il a appelé son pèlerinage. Il a seulement décidé de passer outre le danger des amalgames, tout simplement parce qu'il a estimé posséder des raisons proportionnées pour le faire. Mais je ne veux surtout pas lui prêter des intentions qui n'étaient pas les siennes lorsqu'il a pris la décision de venir ici. Il nous a expliqué les motifs de son déplacement dans le discours qu'il prononça devant la tombe du maréchal, à lui de les donner, mais à nous de les comprendre. Réunis autour de votre dépouille mortelle, persuadés que l'ignoble traitement que vous avez subi dans ce lieu de déportation vous a valu, grâce à la miséricorde de Dieu et à votre esprit de foi, d'être en possession du bonheur éternel, nous tenons, par notre pèlerinage en ces lieux, à vous rendre hommage à vous qui avez sauvé deux fois la France et qui non seulement l'avez sauvée, mais l'avez restaurée spirituellement et moralement en lui faisant retrouver ses traditions de foi, de travail et d'amour de la famille. C'est pourquoi, persuadé que vous pouvez désormais intercéder pour nous auprès de Dieu avec tous les saints et saintes de la patrie, nous vous supplions de venir au secours de la France que vous avez si bien servie pour qu'elle retrouve l'esprit dont vous l'avez animée au temps de la grande épreuve. Quant à nous, il nous incombe de restaurer votre mémoire et de vous rendre l'honneur et la considération qui vous sont dues comme sauveur de la patrie dans deux circonstances où son sort semblait désespéré. Vous avez alors fait preuve d'une vertu et d'un héroïsme exceptionnel qui aurait pu vous valoir le titre de père de la patrie. Nous vous promettons de tout faire pour que la justice vous soit rendue, et nous continuerons de prier les saints et saintes de France à cette intention. Vive le maréchal Pétain, vive la France. Mgr Lefebvre a communiqué lui-même ses raisons par ce texte, qui a constitué le plus bel éloge rendu au maréchal depuis bien longtemps. Demeurons sur la méditation de cet instant de grandeur qui anime l'humble cimetière Dieu. Je suis très fier, comme d'une gloire de famille, que notre archevêque soit allé s'agenouiller devant cette tombe. Si ces titres à notre reconnaissance ne lui manquent pas par ailleurs, sa personnalité de Seigneur s'exprime si bien par cet hommage qu'il est venu rendre à ses cendres méprisées. Son sens de la justice était trop grand pour ne pas être profondément blessé par l'iniquité de cette condamnation du maréchal. Son indifférence à l'opinion publique et son courage l'amenèrent donc à l'île-Dieu pour lui rendre ses honneurs que personne n'osait plus lui donner. Son cœur reconnaissant ne pouvait supporter de voir le délaissement où se trouvait reléguée cette dernière gloire de notre patrie. Celui qui rend l'hommage est à même de savoir pourquoi il le rend. car lui-même sait déjà ce qu'il coûte à un serviteur fidèle d'avoir été rejeté au nom de Dieu et l'amertume de la flétrissure de son nom. À l'heure de la grande décision de transmettre son épiscopat, nous sommes en 1987, apogée de son amour pour l'Église, sa lucidité, à l'instar de celle du maréchal, lui montre déjà qu'elle coïncidera avec le comble de sa condamnation. Il est allé à l'île-Dieu, parce que la souffrance de Philippe Pétain, il la connaît bien. Il en absorbe la moelle tous les jours, et, comme lui, il va l'ingurgiter jusqu'à la nausée. Saisi de compassion, il est venu parce qu'il était, d'une certaine manière, le seul à être en position de si bien comprendre le prisonnier de la citadelle. Me demeure à l'esprit la comparaison si exactement tracée par François Brilliot. Un seul homme m'avait inspiré un pareil sentiment, le maréchal Pétain. Monseigneur Lefebvre et lui partagent la même majesté naturelle, la même autorité débonnaire, la même simplicité supérieure. Ils sont de ces hommes dont l'intelligence n'est pas intellectuelle. Il n'y a nulle pose dans leur gravité. Ils sont malicieux sans malice. Ils attirent spontanément des dévouements qui peuvent aller sans effort jusqu'au sacrifice, parce que l'on sait d'instinct, de conviction profonde et soudaine, qu'ils se sont, dès le commencement, sacrifiés à leur devoir. Ils ne trichent pas, ils ne biaisent pas, ils ne cherchent pas la tangente ni l'explication tortillée. Leur oui est un oui, leur non est un non. L'épreuve ne modifie pas leur comportement. L'un servait la France, l'autre sert Dieu. Avec le même courage tranquille, la même confiance, ils vont jusqu'aux conséquences ultimes de leur engagement, sans forfanterie ni faiblesse. Avant de les juger, il faut d'abord s'incliner devant leur destin, le cœur chargé de reconnaissance et d'amour pour la leçon de grandeur donnée. Et l'on ne peut voir maintenant sans émotion l'archevêque venu rendre ses honneurs au maréchal, s'agenouiller devant sa tombe pour puiser sa force auprès de celui qui l'a précédé dans la consommation de son sacrifice et à son tour s'apprêter à boire le calice jusqu'à la lie de la condamnation. Observons cette image de pureté où se retrouvent deux hommes qui se ressemblent et qui appartiennent à une race rare d'ici-bas, celle des sauveurs. C'est ici et ce jour-là que le plus grand condamné de l'histoire de l'Église du siècle précédent est venu s'incliner devant la tombe du plus grand condamné de l'histoire de France. Nous oscillons entre la fierté de compter parmi les Français deux hommes de cette distinction et la honte de savoir le sort que le gouvernement populaire réserve désormais aux meilleurs d'entre nous. Cependant, nous croyons que nul honneur n'est comparable à celui de souffrir la violence injuste pour une idée juste. Et je pense que le prélat qui aimait son pays s'est aussi rendu à l'île-Dieu, car il voyait en Philippe Pétain le dernier chef politique français qui, en dépit des circonstances dramatiques où il eut à exercer ses fonctions, possédait les principes pour amorcer le relèvement de la France. Le maréchal disait « La France libérée peut changer les mots et les vocables, elle construit, mais elle ne pourra construire utilement que sur les bases que j'ai jetées. » Monseigneur Lefebvre reconnaissait dans la figure du maréchal Pétain, l'homme de bon sens qu'il était lui-même et qui, à l'heure même du malheur de la France oppressée par la démence et la barbarie nazie, commençait à sortir de l'ornière des utopies qu'il avait ainsi réduites. À la tête des armées ou conducteur de peuple, disait Maître Izorni, il possédait ce qui caractérise les grands politiques, le discernement des possibles. Il redonnait surtout à la France ce socle irremplaçable et pourtant perdu, des principes naturels et des vertus, hors duquel il est impossible de voir, d'espérer voir refleurir une civilisation chrétienne. Saint Bilis l'a dit, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit sans cesse que de l'instaurer ou de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété, omnia instaurare in Christo. L'adage magnifique de Bossuet, « Dieu n'a fait les grands que pour protéger les petits », a été vécu par ces deux hommes que nous sommes heureux de réunir dans ce même hommage. L'un avait une crosse d'évêque, l'autre un bâton de maréchal, mais tous deux n'ont jamais vu autre chose dans leur glorieux insigne de bois que ce montant de la croix qu'embrassent certains hommes et qu'ils s'entêtent à porter ensuite et qu'ils finissent même par gravir parce que le don de soi chez eux n'est pas resté un mot. De Philippe Pétain, Maître Izorni a dit « Il faut aussi que les Français connaissent la longue, la douloureuse infortune, ou ce que d'autres ont plus justement appelé le martyr, de celui qu'ils avaient déjà tant aimé et qui les a davantage aimés encore. » Quant à l'archevêque, il n'a été besoin que de trois mots pour graver toute sa vie sur sa pierre tombale « Nous avons cru à la charité ». Nous vous promettons de tout faire pour que justice vous soit rendue. À tous ceux qui ont du mal à comprendre les raisons de cette journée et qui la regrettent, je propose de méditer en conclusion le choix du « nous » utilisé par Mgr Lefebvre dans sa promesse. Quelle est la signification de ce pronom ? Nous vous promettons de tout faire pour que justice vous soit rendue. L'utilisation de ce pronom, premièrement, pour tous ceux qui l'ont connu, c'est sans conteste possible un nous d'humilité. Deuxièmement, loin de l'exclure, ce nous d'humilité exprime aussi la majesté épiscopale. Troisièmement, mais ce nous, en outre, n'est pas un jeu. Il est volontairement collectif et il invite tous ceux qui savent encore ce que la France doit au maréchal à se joindre à sa promesse. Quatrièmement, il lie dans le temps tous ceux qui savent et qui doivent donc lutter pour cette justice tant qu'elle ne lui aura pas été rendue. Cinquièmement, ce « nous » n'engage pas en tant que tel la fraternité Saint-Bilis parce que l'œuvre de la restauration de la mémoire du maréchal n'est pas sa mission. Sixièmement, cependant, les prêtres français de la fraternité ne peuvent s'en désintéresser puisque la condamnation du maréchal symbolise celle de l'ordre naturel hors duquel la restauration du règne de notre Seigneur est illusoire. Septièmement et dernièrement, à ceux que je comprends qui préféreraient ne pas voir la fraternité exposée en première ligne dans ce combat pour l'honneur du maréchal, j'exprime alors le vœu qu'ils épaulent ceux qui s'y dévouent depuis longtemps pour nous, nous en serions les premiers heureux. Par la tendresse de la très sainte Vierge Marie, Reine de France, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.